ויאמר השם אל משה ואל אהרון, בארץ מצרים לאמור. Donc c'est une parole d'Hachem qui est adressée en même temps à Moshe et à Aaron. Où est-ce que, alors, on sait qui parle, on sait à qui c'est adressé et on sait où ça s'est passé. C'est marqué dans le pasouk, Be'eretz Mitzrayim. Ça a eu lieu, cette parole, elle a lieu en Eretz Mitzrayim. Donc, ça veut dire, on est avant la sortie d'Égypte, n'est-ce pas? Avant que ça, avant la sortie d'Égypte. Et la phrase, c'est les morts, c'est-à-dire, ce qui est dit ici à Moshe et à Aaron, c'est fait pour être dit. Les morts, c'est afin que vous le redisiez. Pour le redire, pour dire ce que je vous ai dit. Ensuite, ça c'est l'introduction. La parole, c'est une parole assez exceptionnelle puisqu'elle s'adresse à Moshe et à Aaron en même temps. Et puis c'est une parole qui concerne le clan d'Israël. Alors que les Bnei Israël sont encore en Égypte. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de parole adressée à Moshe Aaron pour qu'il la répercute comme telle, en tout cas pas aux Bnei Israël. Jusqu'à présent, les paroles qui étaient adressées à Moshe Rabbeinu, elles étaient dites pour que Moshe les dise à Aaron et que Aaron les dise à Paro. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette parole? Vous voyez, en plus, c'est un vayomer, c'est-à-dire, ce n'est pas un vaïdaber. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une parole dure, comme on dit. C'est une parole douce. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette parole? Achodesh hazé lachem, rosh chodashim rishon hu lachem, le Chodshe Hashanah. Achodesh Azé. Qu'est-ce que ça veut dire, Achodesh Azé? Aujourd'hui, le mot Chodesh, il veut dire le mois. Mais ici, c'est pas, ici, on ne parle pas du mois. On parle ici de ce qui est Chadash. C'est-à-dire ce renouveau de la lune, cette nouvelle lune. Regardez Rashi. Rashi dit, Rashi cite une Mechilta, c'est-à-dire cite un Midrash Halakha. Reu Levana Bechidusha. Il lui a montré. Levana, une lune, Bechidusha dans son renouveau. Il lui a montré la nouvelle lune. Ve'amar lo, elle lui a dit, Keshayareach, lorsque la lune. Vous voyez, dans la même phrase, on a utilisé une fois le mot Levana, une fois Yareach pour dire, c'est les deux mots qui veulent dire la lune. Chapitre 12. C'est ça que vous cherchiez, non? De Shemot. Il lui a montré, il lui a dit, lorsque la lune se renouvellera de cette manière-là, Yelecha Rosh Chodesh. Ce sera pour toi un Rosh Chodesh, un début de mois. Du coup, maintenant, le mot Chodesh veut dire Rosh Chodesh, début du mois. Ve'en mikra yotse mide pshuto, Shel al Chodesh Nissan Amarlo. Et ce verset-là, il veut dire, dans son chat, on parle ici du mois de Nissan. Ze yé Rosh, le Seder Minyan Achodashim. Ce sera le premier dans la liste, dans la liste des mois. Sheyé Iyar Karoui Sheni Sivan Shlishi. Le deuxième mois s'appellera Iyar, le troisième s'appellera Sivan. Alors, c'est dans le pasouk, c'est marqué Achodesh Azé. Alors, on a déjà vu plusieurs fois que Zé, c'est ce qu'on peut montrer du doigt. Alors, Rashi dit que Moshe avait une difficulté. Nitkasha Moshe al Molad Alvana Be'ezu Shi'ur Terae Vetiye Reuya le Kadesh. Moshe Rabbeinu se demandait combien, quelle est l'épaisseur du croissant qu'il faut voir pour qu'on puisse dire que c'est Rosh Chodesh, c'est-à-dire on a vu la nouvelle lune. Donc Moshe ne savait pas. Vera lo be'etzva et alvana berakia. Il lui a montré du doigt la lune dans le ciel. Vamarlo, kaze re'e ve'kadesh. Quand tu verras ça, comme ça, tu regardes, tu le vois comme ça, alors tu sanctifieras. Ve'ketsa de ra'u. Mais comment il a pu lui montrer? Valo lo'ayam et daberimo et l'abeyom. Comment il a pu lui montrer ça? Il ne parlait avec Moshe Rabbeinu que en plein jour. Shenemar vayhi bayom bayom diber Hashem. Il y a un pasouk plus haut qui dit ce fut le jour où Hashem a parlé. On apprend de là que Hashem lui parlait de jour. Bayom tzavoto ou bien d'autres psukim le jour où Hashem lui a ordonné. Minayom asher siva Hashem va'ala, à partir du jour où Hashem a ordonné, etc. Donc il y a toutes sortes de versets qui nous montrent que Hashem parlait avec Moshe Rabbeinu de jour. Et donc comment il a pu lui montrer la nouvelle lune? On ne voit pas un jour. Alors Rashi dit, Ishkiyat Hachama n'aimera lo parasha zo. Cette parasha, elle lui a été dite au moment du coucher du soleil. Et donc, il y avait déjà une certaine obscurité qui faisait qu'on pouvait voir la nouvelle lune. Ceci, c'est la première mitzvah que les Bnei Israël ont reçue d'Hachem. Une mitzvah de fixer le calendrier, en quelque sorte. Quel était le calendrier en usage? Jusque-là, ce n'est pas marqué dans la Torah. Alors, on sait par ailleurs qu'on utilisait un calendrier qui, lui, commençait en automne, ou l'année commençait en automne. Maintenant, comment était fixé les mois, ben, comment il fixait le début du mois? Si ce n'est pas comme ça, comment on peut le fixer? Est-ce que dans cette mitzvah, Hachem a dit quelque chose de nouveau, à part le fait que vous allez avoir une année qui va commencer en Nissan, mais la façon de commencer le mois, on ne voit pas très bien comment, sur un mois lunaire, on pourrait commencer autrement que en se fiant à la nouvelle lune, quoi. Si le mois est lunaire, alors c'est la nouvelle lune qui va. Ne vont pas commencer à. C'est pas logique de commencer, je ne sais pas, par la pleine lune. Même si la pleine lune va avoir une grande importance. Alors, c'est possible que l'essentiel de ce qui est dit là, c'est que c'est maintenant une mitzvah et que la mitzvah, elle est que l'année commence au printemps. La nouveauté commence. La nouveauté ici, c'est que les Bnei Israël ont un calendrier à eux et qu'ils ne vont pas suivre un calendrier. Semble-t-il que l'autre calendrier, il était une espèce de calendrier plus ou moins universel. Bien sûr, les Chinois avaient leur temps, mais dans la région, c'était le calendrier standard, probablement, qui commençait en automne. A priori, le fait de la question de savoir si l'année commence en automne ou commence au printemps, comme vous savez, c'est une marloquette. La marloquette, elle est quand est-ce que le monde a été créé, en fait? Est-ce que le monde a été créé, disons, en automne ou au printemps? Une marloquette, Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua. Donc, est-ce que le monde a été créé en Tishri ou en Nissan? Ce qui est remarquable, c'est qu'on n'a pas du tout aboli l'autre calendrier. Rosh Hashanah, c'est toujours en Tishri. Simplement, le mois de Tishri s'appellera septième mois, alors qu'il sera le mois de la nouvelle le premier mois de la nouvelle année dans le décompte d'une année qui commence en automne. C'est-à-dire qu'on a une démarche un peu contradictoire quelque part. Nous, on fête Rosh Hashanah, et Rosh Hashanah est présenté dans la Torah, le jour de ce Tkiyat Shofar, etc. C'est quand? C'est le septième mois, Bachodesh Hashvi'i. Formellement, cette mitzvah, qui est la première mitzvah, qui est adressée aux Bnei Israël, elle s'adresse à des Bnei Israël qui sont en Égypte. Tant qu'ils sont en Égypte, ils sont encore formellement esclaves de Paro. Puisque vous vous souvenez, ils vont sortir de ce état d'esclaves de Paro, formellement, uniquement au moment de la sortie d'Égypte. Donc là maintenant, on n'est pas sorti encore. Donc on parle ici à des esclaves. Alors ce qui est remarquable, c'est qu'au fond, la chose la plus remarquable dans le statut d'un esclave, c'est qu'il n'est pas maître de son temps. On l'a déjà vu plusieurs fois. Et voilà que la première mitzvah qu'il leur est donnée, c'est une mitzvah où il maîtrise le temps. Bon, parce que dans cette halakha, enfin, les halakhot qui vont autour de cette mitzvah-là, c'est les halakhot qui vont dire que ici c'est marqué que Hachem a dit à Moshe de le faire. Et par la suite, c'est, disons, en vitesse de croisière, ce sera le Sanhédrin qui va décider ça. Le président du Sanhédrin, si on peut parler comme ça, c'est lui qui va proclamer le nouveau mois. Donc il va proclamer ce nouveau mois et Il est souverain. Ça veut dire que si pour des raisons techniques ou autres, ça ne lui convient pas de déclarer le nouveau mois au moment où il peut le déclarer, on va voir comment, ben, il peut le déplacer d'un jour ou de... On peut déplacer le début du mois. Donc il est souverain. Alors, c'est dit, quand tu verras, alors, premièrement, ce que vous avez probablement remarqué, que je vous ai fait remarquer que la parole s'adressait à Moshe et à Aaron, mais Rashi rapporte uniquement qu'Hachem a montré à Moshe. Tout est au singulier, il lui a montré. Donc, comme si Aaron était là, mais Hachem parle à. Comme si finalement Hachem parle à Moshe en présence d'Aaron aussi. C'est Moshe qui a une difficulté, c'est-à-dire, parce que Moshe a considéré que c'est lui qui avait un problème, quoi. Lui, non, pourquoi est-ce que Aaron n'a pas dit, par exemple, moi je sais comment on ferait? Il aurait pu, on peut imaginer que Aaron, lui, il savait. De toute manière, la vérité, c'est que c'est difficile d'imaginer la question de Moshe Rabbeinu. Parce que, qu'est-ce qu'Hachem lui a dit? Il lui a montré, voilà, dès qu'on voit ça. Mais il lui a montré. Quand les témoins. Alors, comment ça va se faire par la suite? Par la suite, on va dire que lorsque deux personnes vont venir et ils vont aller à Yerushalayim, au Sanhédrin, et ils vont témoigner, nous avons vu la nouvelle lune. Alors, on va vérifier quoi. Le problème, enfin, c'est pas un problème. La vérité, c'est que on sait calculer la nouvelle lune. Et ils savaient calculer la nouvelle lune. Donc, on savait s'il était possible qu'ils aient vu la nouvelle lune. Bon, alors on les interrogeait un peu sur ce qu'ils avaient vu. Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés, donc confondus avec un petit nuage? Mais en fait, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent, on a vu la nouvelle lune. Ben, la nouvelle lune, ben, quand c'est visible, c'est visible. Avant, c'est pas visible. Donc, c'est quoi le zé que, qu'est-ce qu'Hachem a montré à mon cher Abinou? Est-ce qu'Hachem a dit, si on la voit, mais qu'il n'y a pas, t'as pas l'impression quand tu vois que c'est pas au bout de ton doigt, ça a l'air d'avoir de, pas un centimètre d'épaisseur, alors c'est pas bon, on n'a jamais vu ça. On n'a pas dit qu'il fallait voir quelque chose qui avait une épaisseur donnée. Donc dès qu'on voit, on voit, c'est tout. Donc qu'est-ce qu'il voulait, Moshe? Rachid dit qu'il ne savait pas quel est le chiour. Alors, c'est vrai que les mitzvot, elles doivent toujours être quantifiées, si vous voulez. Il faut dire combien. Alors, Hachem lui a dit, c'est voilà ça, là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que Moshe, il a dû ensuite, par tradition, il a dû dire à ceux qui viennent après lui. C'est ça. Lui aussi, il a dû le montrer à chaque génération. Il faut montrer qu'est-ce qu'on appelle la nouvelle lune. Je sais pas. Je sais pas répondre à cette question. J'ai l'impression que il y a aucune difficulté à savoir quand est la nouvelle lune.
D'intervenir. Que les hommes interviennent dans la définition de la nouvelle lune, c'est pour ça, peut-être?
Pardon que.
Pour que l'Israël eux-mêmes
Oui, non, ça c'est
répondent.
pourquoi. Oui, non, d'accord. Mais bon, alors, on va dire, voilà, les témoins, il faut qu'il y ait deux témoins, deux juifs qui ont vu, qui vont venir à Yerushalayim, vont être mechallel le Shabbat pour venir, et tout le monde a le droit, et si ça se trouve, il y a beaucoup de monde qui a vu la nouvelle lune, il y a plein de gens qui vont être mechallel le Shabbat, le cas échéant, pour foncer à Yerushalayim, voilà. Alors, il va y avoir des problèmes, est-ce qu'on les arrête à l'avant, en avant, etc. La morale va discuter de ces questions-là. Mais bon. Bon, alors les premiers arrivés auront déjà. Donc, ceux qui arrivent après, on va leur faire une fête quand même. On va leur donner à manger, à boire, pour que la prochaine fois, ils veuillent bien venir. Parce que sinon, s'ils disent on est venu, mais ça ne servait à rien, la prochaine fois, il n'y a plus personne qui vient. Et l'épaisseur, ouais. On n'a jamais entendu cette épaisseur. Dès qu'il y a un croissant, c'est visible ou c'est pas visible. Il l'a montré, oui, mais qu'est-ce qu'il lui a montré?
Il était en train de voir, il
Non, mais c'est Moshe, il a vu la nouvelle lune. Et il savait pas quel est le chiot. Donc ça veut dire, c'est Moshe Rabbeinu, il s'est demandé, peut-être qu'on appellera, je sais pas, avoir vu la nouvelle lune, que quand elle aura au bout de ton doigt, tu as l'impression d'avoir, je sais pas, 1 cm dans sa largeur.
C'est tant mieux parce que quand on aime quand il passe, c'est subjectif. C'est-à-dire que
De toute
chacun.
manière, ça sera subjectif. Il y aura des gens qui sont capables de voir, qui voient mieux que les autres. Ben, les premiers qui ont vu, et qui arrivent à Yerushalayim, c'est d'après eux qu'on va fixer le nouveau mois. Et bon, voilà, donc c'est une première mitzvah qui est donnée à des gens dont la condition est de ne pas être maître du temps, et on leur donne comme première mitzvah une super maîtrise du temps, quelque chose qui a révolté les Grecs, bien sûr. Les Grecs n'ont pas du tout apprécié. Que les Bnei Israël avaient la prétention de maîtriser le temps. Le temps, c'est chez les Grecs, c'est quelque chose qu'on subit. C'est pas. Et donc, ils nous ont fait, à l'époque de Hanouka, donc, avant Hanouka, ils nous ont fait des problèmes. Ils nous ont interdit de pratiquer Rosh Chodesh.
Vous avez dit qu'ils étaient esclaves, donc ils n'ont pas d'excuses.
Oui, c'est-à-dire, non, justement, ils sont esclaves de Paro, mais premièrement, à ce moment-là, ils ne travaillent déjà plus, mais c'est important de dire à des gens, de donner comme première mitzvah la mitzvah qui dit aux gens, qui caractérise justement les gens qui ne sont pas comme eux, quoi.
Ça les procure.
C'est comme si on disait, vous êtes super libre, parce qu'en réalité, normalement, votre temps appartient à Paro, mais en vérité, c'est vous les maîtres du temps.
Dans une projection, parce que vous savez toujours dit s'ils sont esclaves de Paro, ils ne peuvent pas se penser esclaves d'Hachem.
Oui, justement. Donc, ils viennent. C'est une façon de leur dire, vous êtes sortis de l'esclavage déjà, puisque vous maîtrisez le temps. Bon, alors cette mitzvah, elle est donnée. Et tout de suite, le troisième verset, Dabrou el kol adat Israël, les morts. Parler, cette fois-ci, l'ordre est, vous allez parler durement, ça veut dire, vous allez donner des ordres à la communauté d'Israël. Vous allez leur dire comme ça. Mais Asor la Chodesh, le 10 du mois, le 10 de ce mois-là, de ce mois dont je viens de vous dire qu'il sera le premier mois de l'année, Vikulaem ish sel bet avot, c'est la baït. Il faudra que chacun prenne un homme, l'homme, verra après que c'est l'homme de la maison, le maître de la maison, il va prendre un agneau par maison paternelle, en fait, par maison. C'est la baït. Et puis ça, c'est le Korban Pessah, mais je ne veux pas parler maintenant du Korban Pessah, puisque Bien sûr que la paracha qu'on va lire, elle va lire, on va lire non seulement, ça s'appelle la Hodesh, parce que ça commence par la Hodesh, mais c'est effectivement l'ordre qui est donné aux Juifs, aux Bnei Israël en Égypte encore, de faire ce qui va être le Korban Pessah. Bon. Alors, ils vont faire le Korban Pessah, et ce Korban Pessah, ils vont le manger juste au moment où ils partent. Bon, vous savez, ils vont le manger, comme on dit, le bâton dans la main, les chaussures aux pieds, la ceinture sur les reins. Ils vont le manger sur le pouce, un peu, à toute vitesse. Puis ensuite, ils vont partir. Et par la suite, les Bnei Israël vont eux aussi approcher un korban qui s'appellera korban Pessah, qui est presque le même que celui que leurs ancêtres ont fait en Égypte. C'est pas exactement la même chose parce que chez eux, c'était pas vraiment un korban. Il y avait pas de Mizbéach, etc. Toute la partie Corban qu'il y a pour nous, disons, qu'il y a eu dans le futur, enfin à partir de ce moment-là, dans la mitzvah de faire le Corban Pessah, c'est un Corban Pessah. C'est-à-dire qu'on va faire, dans le Corban Pessah des Bnei Israël, il suffisait de manger. Dans le Corban des Bnei Israël, il faut faire un travail avec le sang. Il y a un problème d'aspersion. Bon, c'est toujours ça la caractéristique de tout korban, c'est qu'on asperge le sang, enfin, du sang de la shrita sur le misbéach. Pour le reste, on va manger comme eux, ils ont mangé. Alors, eux, le sang, au lieu de l'asperger sur le misbéach, ils avaient un autre usage du sang, c'était pour le mettre sur les poteaux et les linteaux des maisons. C'est l'équivalent, en quelque sorte, c'est pas la même chose, hein, mais l'équivalent, il y avait aussi quelque chose à faire avec le sang, c'est effectivement d'asperger, oui, pas asperger. De mettre du sang sur les poteaux et les linteaux. Et donc la viande de ce corbin, cet agneau-là qu'ils auront égorgé, etc. Elle sera mangée dans la nuit. Dans la nuit, cette nuit, c'est la nuit du 15. La nuit, en goy, c'est la nuit du 14 au 15 Nissan. Mais de facto, on est déjà dans le 15, puisque depuis la Shkia, on est dans le 15. Et il faut le manger grillé. Il faut le manger matzot ou matzot. Donc, vous allez manger avec des matzot, anmrorim, sur des herbes amères. Et Hachem dit, vous allez faire ça, et moi, pendant ce temps-là, en quelque sorte, moi je passerai dans le pays d'Égypte, cette nuit-là, et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, que ce soit des premiers-nés humains ou animaux, et je détruirai aussi toutes les idoles égyptiennes. Et ce jour-là, vous en souviendrez et vous le fêterez C'est une fête pour Hachem dans toutes vos générations. C'est une règle éternelle que cette fête. Et suite à cela, vous mangerez pendant 7 jours les matzot. Et le premier jour, le premier de ces 7 jours, ça sera comme un Shabbat, c'est un Yom Tov, quoi, interdit de travailler. Mais vous ferez aussi disparaître tout le chametz de vos maisons. Et ce chametz, il devra disparaître pendant 7 jours. Donc, vous ferez bien attention avec les matzot. Faites bien attention avec les matzot, c'est-à-dire, vous allez faire des matzot, faites attention qu'elles ne deviennent pas chametz. L'idée étant que, qu'est-ce qui distingue essentiellement la matza et le chametz? C'est un problème de temps. Bon, c'est le temps. C'est-à-dire, si on fait, dans les deux cas, on prend de la pâte, une pâte minimale, ça veut dire une pâte pauvre. On a une pâte dans laquelle il n'y a que de la farine et de l'eau, il n'y a pas de sel, pas de sucre. Maintenant, la différence entre la matza et le hametz, c'est quoi? C'est que si on laisse la pâte, on la laisse lever, c'est-à-dire on ne la travaille pas pendant un certain temps, elle va devenir hametz. Et si on la travaille, bon, ça peut prendre beaucoup de temps, peu importe, tant qu'on la travaille, elle ne devient pas hametz. Et les deux, elles sont de toute manière, ensuite jeter au feu et griller. Donc l'essentiel, le chametz, il contient du temps, si on peut parler comme ça. C'est du temps non travaillé, du temps pendant lequel on n'a pas travaillé. Et l'expression, ça s'appelle Ushmartem et Matzot, c'est-à-dire vous garderez les Matzot, c'est-à-dire vous garderez, garder, ça veut dire veiller à ce que, là en l'occurrence, ça veut dire veiller à ce que ça ne devienne pas Hametz. Mais comme vous savez, le mot Matzot, on pourrait tout aussi bien le lire Mitzvot. Il suffit de changer les voyelles. Et donc, il y a aussi, on pourrait lire aussi, Ushmartem et Amitzvot. Et si Ushmartem veut dire, il faut maîtriser le temps pendant qu'on fait, là aussi, il faudra maîtriser le temps par rapport aux Mitzvot. C'est-à-dire faire les Mitzvot quand elles doivent être faites, et les faire avec une forme de zrizout, avec zèle, avec pas traîner. Donc, on a l'habitude de lire cette paracha avant ou juste à Rosh Chodesh Nissan, c'est-à-dire au moment où elle a été donnée, quoi, quelque part. C'est ce que les Bnei Israël ont fait et c'est ce qu'on a fait ensuite par la suite. Par la suite, les Bnei Israël ont fait aussi comme ça, le Korban Pessah. Voilà, ça c'est pour Parshat un Chodesh. Oui. On maîtrise le temps. Là aussi, on maîtrise le temps au sens, on perd pas de temps. On ne laisse pas le temps faire son œuvre, quoi.
beaucoup plus grand quand on avance un nouveau temps.
Oui, non, c'est ça, c'est que les Grecs eux-mêmes, ils pensent, le temps, c'est comme le destin, quoi, c'est, ça leur tombe dessus. Et donc, quand les Bnei Israël viennent et disent, nous, on maîtrise le temps, ils disent, vous êtes fous.
C'est qu'on maîtrise, on fabrique notre temps à nous, c'est un temps.
On a notre temps à nous et on considère que nos mitzvot, ça commence par les matzot, et c'est vrai pour les mitzvot. C'est quelque chose, c'est durant la fabrication des matzot et durant la fabrication des mitzvot, quand on fait les mitzvot, il y a un sujet du temps. C'est-à-dire, c'est à la fois le moment où il faut les faire, les manger, faire les mitzvot aussi, et aussi la façon dans les faire. Une façon avec, faire avec zèle, avec énergie.
Justement, c'est pas qu'on soit des
Oui,
associés
bien
de
sûr.
chaîne, en fait, qu'on se place au-dessus du temps, comme c'est la vie de ce volontaire, et qu'on devient des associés de chaîne pour construire un temps qui ne fait plus le temps de la nature.
Ça va être. Il faut bien comprendre que dire que nous sommes, d'une certaine manière, maîtres du temps, on n'est pas maître du temps du Shabbat. Le Shabbat, lui, revient tous les 7 jours. On est maître du temps au sens du calendrier. Alors, ce qui est lié au calendrier. Mais ce qui va être le fait des Yamim Tovim, Pessah, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, c'est lié au temps. Shavuot, c'est aussi lié au temps, mais ce n'est pas une date.
En tant que Ben Israël, ce temps, ça nous caractérise.
Et c'est
Et
ça, ce que.
pour qu'il nous caractérise, il faut qu'il nous donne du sens. Et pour qu'il nous donne du sens, on doit donner du sens au temps. C'est-à-dire l'employer. Ce n'est pas le temps qui se déroule sans être utilisé. C'est comme Bardachou.
Oui, c'est ça, c'est. Oui. Alors, ce qui est important, c'est que du fait que c'est nous qui décidons quand commence le mois, alors quand Hachem nous donne rendez-vous le 15 du mois, Hachem a fixé que le rendez-vous aura lieu le 15, mais c'est nous qui disons quand sera le 15, puisque c'est nous qui disons quand sera le premier. Donc, ça veut dire que quand les rendez-vous avec Hachem sont. Bien qu'ils apparaissent comme des rendez-vous qui sont donnés par Hachem, qui nous convoquent, souvent on est traduit sainte convocation, Mikra et Kodesh, certains traduisent par sainte convocation. Alors, c'est bien les saintes convocations, mais nous sommes du côté de ceux qui convoquent aussi. Nous nous convoquons et nous convoquons Hachem, si on peut parler comme ça, aussi. Lui, il nous convoque, mais nous aussi, on le convoque.
Comprendre dans un système, il faut rentrer dans une logique qui nous appartient à nous.
Oui, bien sûr.
C'est un système. Et là, je trouve que cette notion du temps nous donne bien cette logique. Vous parlez de l'acteur du temps, on a à la fois les bons savoirs de logique, les acteurs du temps, de ce temps,
C'est ça.
en
C'est la même chose que. C'est toujours la même idée. Vous avez expliqué ça quand mon cher Rabbeinu a ajouté un jour à Matan Torah. Il a décalé pour qu'on soit aussi du côté de celui qui donne la Torah, pas seulement de celui qui la reçoit. C'est vraiment ça qui fait que le clan d'Israël est associé à l'Hachem.
finalement, le mot esclave d'Hachem, ce n'est pas le même sens non plus.
Non, nous sommes esclaves d'Hachem parce qu'on lui doit tout. Parce que c'est vrai que c'est nous qui décidons, mais s'il ne nous donne pas la vie, on ne peut pas décider.
Mais à un esclave, on ne lui demande pas de participer, d'avoir sa place dans la décision. Et si on sait nous qui décidons, qui les fait, et tout ça. C'est le mot esclave s'applique dans notre logique à nous politique. Ça ne s'applique pas trop là-haut. C'est sûr que ça me gêne le mot esclave sur ma chaîne. y a des sphères de riches, ça.
Ok, enfin c'est comme ça, c'est Avadim, Avdéhaché.
Et par contre, je veux que HM a détruit les idoles. Quel sens ça pour HM de détruire les idoles?
C'est une manifestation de. C'est attaquer l'Égypte quand on détruit la civilisation, on va détruire tout ce qui est symbolique qui représente les valeurs égyptiennes, quoi. Mais il les a toutes détruites sauf une. Mais bon, non, pour l'instant, on ne va pas parler de ça maintenant. Maintenant, on est dans la parasha Shmini. Et le Shmini veut dire huitième. Il y a une machloket entre Rashi et les autres, si on peut parler comme ça. C'est le huitième jour. Le huitième jour de l'inauguration du Mishkan. Mais le problème, c'est, on sait que le premier Nissan. Mais est-ce que inaugurer veut dire c'est le premier des 7 jours de l'inauguration? Auquel cas, le huitième jour dont on parle ici, c'est le 8 Nissan. Ou est-ce que ce Shmini, c'est lui qui est le premier Nissan, parce que c'est le jour où effectivement Aaron et ses frères et ses fils prennent leur service. Et donc, le premier jour dans l'inauguration du Mishkan, c'était le 23 Adar. De sorte que le huitième jour de cette inauguration, c'était le premier Nissan. Ça, c'est une marloquette. Ça change, si vous voulez, le problème, c'est surtout Ibn Ezra qui est. Ça change par exemple la chose suivante. Donc, il a fallu faire le Korban Pessah. Pour faire le Korban Pessah, comme c'est un Korban, il fallait être en état de pureté. Et le Passouk dit qu'il y avait des gens qui ont dit, ben nous on peut pas parce qu'on est impurs. Pourquoi ils sont impurs? Parce qu'ils ont enterré Nadav et Avihu. Mais Nadav et Avihu, ils sont morts le jour de l'inauguration. Si le jour de l'inauguration, c'est le huitième jour en question, si c'était le premier Nissan, eh bien, jusqu'au 15, ils ont largement le temps de se purifier. Il faut 7 jours pour se purifier. Donc, si on dit comme Rashi, c'est un peu embêtant parce que c'est pas eux, les gens qui étaient impurs. Parce qu'eux, ils ont le temps de se purifier jusqu'à Pessah, ils pouvaient se purifier pour seulement 7 jours. Donc, faut imaginer qu'il y a des gens qui étaient impurs, mais on ne sait pas qui c'est. C'est pas marqué dans la Torah que c'est qui étaient ces gens impurs. Bon, si on tient comme Ibn Ezra que pardon, si on tient que le premier jour des 7 jours, c'était le premier Nissan, et donc on est le 8 Nissan, ils sont devenus impurs. Et donc, le 14 au soir, ils sont pas purs. Et si tu dis qu'en fait, le premier jour, c'était le 23, Adar, et que le huitième jour, c'était le premier, alors, le 14 au soir, ils sont purs. Donc, c'est d'autres personnes. Alors, je vous rappelle ce qui s'est passé. En fait, le Mishkan, il était terminé quand? Il était terminé à Hanouka. Il était terminé le 25 Kislev. Mais Hachem ne voulait pas l'inauguration ait lieu à ce moment-là. Il voulait que l'inauguration ait lieu justement en Nissan. Et donc le 25 Kislev était fâché. Hachem, pour le consoler, lui a dit, il y aura une nouvelle inauguration le 25, c'était Hanouka. Hanouka, c'est une inauguration, la deuxième inauguration du deuxième Beth Amikdash. Donc, on a attendu et on a eu 7 jours de, ça s'appelle Milouim. C'est Milouim, c'était, en fait, c'est comme si c'était des jours d'exercice pour Aaron et ses fils. Ils ont dû apprendre à faire ce qu'ils devaient faire, apprendre à porter les vêtements de Kehuna. Et pendant ce temps-là, celui qui faisait la avoda, lui, c'était Moshe Rabbeinu. Pendant 7 jours, c'est Moshe Rabbeinu qui a fait la avoda. Les Chazal disent que Moshe Rabbeinu, lui, je crois vous l'avoir déjà dit, Moshe Rabbeinu, lui, bien qu'il ait fonctionné comme Kohen Gadol, il n'avait pas besoin de mettre les vêtements du Kohen Gadol. Et lui, il avait des vêtements blancs, tout simple. Comme si les vêtements du Kohen Gadol sont là pour donner de la splendeur au Kohen Gadol, pour impressionner le monde, quoi. Semble-t-il, mon cher ami, l'impressionnait suffisamment sans avoir besoin de mettre des vêtements spéciaux pour ça. Et donc, c'est mon cher ami a expérimenté d'être Kohen Gadol, même. Mais au 8e jour, il a dû passer le flambeau. Il a passé la main à son frère. Et alors, on peut lire cette expérience de Moshe Rabbeinu de deux manières. Comme vous savez, quand Moshe Rabbeinu n'a pas répondu tout de suite à l'ordre qu'Hachem lui avait donné d'aller délivrer les Bnei Israël, il a résisté pendant une semaine. Hachem l'a sanctionné, Moshe Rabbeinu, il s'est fâché et il lui a dit, tu aurais dû être Cohen et ton frère Aaron aurait dû être le Lévi, mais maintenant c'est ton frère qui sera le Cohen, Cohen Gadol. Alors on peut dire, ou bien que Hachem a voulu adoucir un peu le problème pour Moshe Rabbeinu, de telle sorte que Moshe Rabbeinu ait expérimenté aussi l'élévation, être Kohen Gadol, c'est pas un problème de d'être fonctionnaire, etc. C'est quelque chose qui spirituellement c'est une expérience spirituelle. Donc celle-là aussi, Moshe Rabbeinu l'a eue pendant une semaine. Ou alors on peut dire que ça fait partie au contraire, de la difficulté qu'il a. On lui a dit tu vas fonctionner, puis après on lui a enlevé. Pas seulement que tu le seras pas, mais d'abord on t'a laissé goûter le plaisir ou l'élévation, puis ensuite on lui a enlevé. Alors, bon, il y a deux façons de lire les choses. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que Aaron, à un certain moment, lui, il avait du mal à prendre la suite de Moshe. Parce que il disait, Moshe, tu vas m'en vouloir, c'est de te prendre la Kehuna, en fait. Et Moshe Rabbeinu lui a dit, de la même manière que toi, Hachem, t'as témoigné que tu t'es réjoui quand je suis venu en Égypte. Moi, je croyais que ça allait t'affecter. Moi, j'arrive là et je prends le rôle. C'est toi qui as fait tout le travail durant toutes ces années pour encourager les gens, et maintenant j'arrive, tac, et je prends le pouvoir. Mais Hachem a témoigné que tu t'es réjoui dans ton cœur. Bien, sache que moi aussi, je me réjouis dans mon cœur que tu deviennes Kohen Gadol. J'ai aucun ressentiment, aucune pensée négative. C'était une énorme fête, vous imaginez l'inauguration du Mishkan. C'était une fête fantastique. Et puis au milieu de la fête, il y a eu la tragédie de la mort de Nadav et Abihu. Nadav et Abihu étaient des gens exceptionnels, en fait. Mon cher Abénou, après la mort de Nadav et Abihu, il a parlé à Aaron. Et dans chapitre 10, au verset Guimel, Hachem a dit, Moshe Rabbeinu, pardon, a dit à Aaron, Vayomer Moshe la Aaron, vous, Asher diber Hachem, les morts, c'est ce qu'Hachem m'a dit, et il m'a dit de le redire, les morts. Bikrovaï et Kadesh. Je serai sanctifié par ceux qui me sont le plus proche. Valpne Cholaam et Kaved est devant tout le peuple. Je serai honoré en quelque sorte. Le passage termine en disant Vaïdom à Aaron. Aaron s'est tu. Il n'a pas dit un mot. Rashi ramène, Amarle Moshe et Aaron. Moshe a dit à Aaron, Aaron, tu sais, Aaron, mon frère, je savais que Kadesh Abayit miodav shel makom. Je savais qu'il y aurait une sanctification du Bayit, c'est-à-dire du Mishkan. Et que ça aurait lieu, ça allait toucher ceux qui connaissent, qui sont extrêmement proches d'Hachem. Je pensais que Obi Obach, je pensais que ce serait toi ou moi. Arshav Roé Ani. Shem Gdolim Mimeni ou Mimcha. Et maintenant, je vois qu'ils sont, enfin qu'ils étaient, plus grands que toi, que moi et toi. Donc, mon cher Abénou, il n'a pas dit des choses fausses pour consoler à Aaron. Il dit quelque chose de vrai. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que Nadav et Abihu étaient plus grands que Moshe et Aaron. Ibikrovaï et Kadesh, ceux qui me sont le plus proches. Je serai sanctifié par eux. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre ce qu'étaient Nadav et Avihu? Alors, c'est une question qui, a priori, on peut répondre sans que ce soit une réponse facile. On peut répondre en disant que c'est ce qu'on appelle la Midatadine. La Midatadine, elle réclame toujours le Ramchal, par exemple, il explique ça de la manière suivante. Il dit, Omnam tsarich sheteda, il faut que tu saches, shereshit retsono idbar shmo hu leitiv. C'est-à-dire, la volonté d'Hachem, volonté première d'Hachem, c'est de faire du bien. Et la kede leitiv, atavash lema, tava et amishpat. Mais pour que le bien que Hachem prodigue soit parfait, il a fixé une loi, qui dit chez Bassof, Yeshar Amiti, comment a Moseret Beno la Tivo Bachito, comme effectivement un parent doit éventuellement guider, peut-être que c'est l'enfant qui est guidé par son père, qui veut l'amener, ou ses parents qui veulent l'amener à la réussite, en fait. Lui, sur le moment, il est entravé, il lui voudrait aller à gauche, et ils lui disent non, mais c'est pas là-bas qu'il faut aller, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Et donc, ça fait partie de, si on veut que les choses se passent vraiment bien, alors, il y a obligatoirement une certaine, presque de la violence, une certaine contrainte en tout cas, qui est mise. Bon, c'est un sujet très compliqué. Si vous voulez, c'est le même sujet que pourquoi est-ce qu'il y avait pourquoi est-ce qu'il fallait un exil, pourquoi il fallait l'esclavage avant qu'on puisse recevoir la Torah, etc. Pourquoi il faut travailler? Pourquoi est-ce qu'il faut que ce qu'Hachem veut nous donner de toute manière, pourquoi est-ce qu'il faut le gagner en réalité? Pourquoi Hachem veut que nous le gagnions? Pourquoi il faut faire des efforts? Mais je pense, on peut. C'est l'explication standard. Je pense qu'on peut expliquer, donner encore un brin supplémentaire d'explication. Il y a un midrash qui dit que Nadav et Avihu marchaient derrière Moshe Rabbeinu et Aaron, et ils se disaient, quand est-ce que ces deux vieux-là vont enfin disparaître pour que nous puissions, nous, diriger le clan Israël? Ça a l'air un peu grossier, mais comment est-ce qu'il faut l'entendre? Et avec ça, on comprendra peut-être pourquoi Moshe a pensé que c'est lui ou Aaron qui allait disparaître. C'est que on a dit déjà que le clan d'Israël, quand il naît en Égypte, à la sortie d'Égypte, c'est une naissance du clan d'Israël. Et cette naissance, elle a été précédée d'une grossesse. Et la grossesse a été précédée d'une conception, etc. Et durant la grossesse, il y a des difficultés. En fin de grossesse, il y a effectivement des douleurs, etc. Mais surtout, une fois que l'enfant est né, alors, n'est pas capable de se débrouiller tout seul. Il a besoin qu'on l'aide. Le petit homme, en tout cas, il a besoin d'être aidé. Ça dure un certain moment. Et de ce point de vue-là, on peut penser que le clan d'Israël, quand il est né, il avait besoin d'être aidé. Il avait besoin de Moshe et d'Aaron pour le guider. Mais ça, c'est vrai dans la phase de démarrage, si vous voulez. Et dans les phénomènes, il y a un démarrage et après, il y a ce qu'on appelle la vitesse de croisière. Dans la vitesse de croisière, on n'a plus besoin d'être aidé. C'est ça la définition. On appelle vitesse de croisière le moment où on n'a plus besoin d'être aidé. Où ça, voilà, on a atteint le niveau où on doit. Quel on est. Et donc Moshe pensait qu'il était nécessaire durant la phase de démarrage du clan d'Israël, que Aaron avait été nécessaire en Égypte et qu'il était encore, là on voit que Hachem leur parle à tous deux, il est nécessaire encore. Et donc il s'est dit que peut-être on est arrivé à un moment où on n'a plus besoin de nous. La vérité, c'est que la relation du clan d'Israël avec Hachem, c'est une relation spéciale. Bon, puisque, comme on dit, les bnei Israël n'ont pas de Dieu, on n'a pas d'Eloah. C'est Hachem qui accepte de jouer ce rôle. Par conséquent, la qualité du clan d'Israël, c'est d'avoir un lien direct avec Hachem. Les bnei Israël ont eu un moment un lien direct avec Hachem pendant les deux premières paroles. Le lien était direct, Hachem leur a parlé. Mais là, ils ont dit non, on ne veut plus ce lien direct, on veut que toi, tu nous parles. Donc, ils ont mis Moshe entre Hachem et eux. Donc, d'une certaine manière, la présence de Moshe, elle fait un peu d'ombre à Hachem, d'une certaine manière. Les bnei Israël ne sont pas directement en relation avec Hachem. Ça passe par Moshe Rabbeinu. Alors, il y a un moment où c'était nécessaire, ils n'y arrivaient pas autrement. Mais en vitesse de croisière, il faudrait que le clan d'Israël parle directement avec Hachem. Et pour ça, il faut enlever Moshe. Donc, c'est ce que Moshe pensait. Je suis nécessaire, mais on ne peut pas me laisser plus longtemps. Parce que d'une certaine manière, j'empêche le clan d'Israël d'avoir ce lien direct avec Hachem. C'est aussi ce que Nadab et Abihu pensaient. Eux, ils pensaient, nous, maintenant, on est assez grands pour diriger un clan d'Israël, le diriger, pas l'infantiliser en quelque sorte, en étant, on va diriger directement. On ne va pas être intermédiaire. Nous sommes une partie du clan Bon, alors dans le CLAL, on va diriger le CLAL. Mais le CLAL aura sa direction directe avec HM. Et du coup, ils pensaient, on va prendre la place. Ça veut dire qu'ils pensaient que le CLAL Israël était arrivé à la vitesse de croisière. Ce que Moshe pensait aussi un peu. Seulement Moshe, il n'était pas, il disait, il n'a pas dit je vais partir, je m'en vais, ou, etc. Il a dit j'ai compris, ou j'ai cru comprendre que c'était toi ou moi qui allais disparaître. J'en étais pas sûr. Mais en quoi est-ce qu'ils sont plus grands? En quoi est-ce qu'ils sont... C'est pas plus grand, c'est Krovaï. Ils sont plus proches. Eux, ils étaient plus proches d'Hachem. Pourquoi? Parce que ils sont comme le clan Israël qui est proche d'Hachem. Bon. Mon cher Abénou, il est, lui, proche d'Hachem, mais il n'est pas... Il est entre Hachem et... Donc, il est quelque part... Il est encore dans, à la fois dans le clan Israël et Hachem. Il a une place à part, une place à lui. Eux, ils n'ont pas de place à eux. Pardon? Oui. Mais donc, Nadav et Avihu, voilà, ils pensent, on est en vitesse de croisière. Donc, nous, on est directement proche d'Hachem. On n'a pas besoin de Moshe. On n'a plus besoin de Moshe. Le clan Israël n'a plus besoin de Moshe. Et donc, ça veut dire qu'eux, ils se sentaient suffisamment proches d'Hachem, sans avoir le rôle de Moshe. Et ils se sont trompés. Et comment est-ce que ça s'est manifesté qu'ils se trompaient? Ça m'a manifesté de la manière suivante. Dans le Mishkan, on va apporter les korbanot. Dans les korbanot, il y a quelque chose qui joue un rôle fondamental, c'est le feu. Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on brûle sur l'autel. Le feu du Mishkan, le feu du Beth Amikdash par la suite, c'est un feu qui vient d'Hachem. Mais, bien que le feu vienne d'Hachem, nous avons une mitzvah de contribuer au feu en question. C'est-à-dire, on a une mitzvah d'apporter matin et en fin d'après-midi du bois pour alimenter le feu. Un bois qui n'est pas nécessaire, puisque c'est le feu d'Hachem, il n'a pas besoin de combustible au sens habituel du terme, mais Hachem veut nous associer. Et donc, les choses se passent. Et en plus, le feu qui vient d'Hachem dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan en vitesse normale, on a dit, en vitesse de croisière, en temps normal, on voit pas, on ne le voit pas tomber du ciel. Il est là, il vient du ciel, mais on ne voit pas qu'il est tombé du ciel. Donc, tout se passe comme si c'était le clan Israël qui venait et qui alimentait le feu, comme si nous faisions le feu. Et parmi les korbanot, il y a ce qu'on appelle le ktoret, l'encens. L'encens, c'est des parfums. Comment c'est ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on allume, on met ces parfums sur un encensoir, enfin sur un support, et on y met le feu. Et quand ça brûle, ça fabrique un nuage de bonne odeur. Mais Au moment où on met le feu, ça brûle, ça fait pas, c'est pas encore des bonnes odeurs, c'est encore des odeurs de brûlé, en quelque sorte. Jusqu'à ce que les parfums en question donnent leur odeur. Par conséquent, quand on allume ça, on allume à la cuisine, en quelque sorte. On allume dans l'arrière-pièce et on l'amène dans la salle principale quand on a déjà le nuage. Et c'est comme ça que on apportait le Ktoret dans le Beth Amikdash. Seulement le jour de l'inauguration, Hachem avait décidé que pour qu'on n'oublie pas qu'en réalité, la avoda que nous faisons, de même que quand c'est Hachem qui fait, on a dit sur. Alors, les hommes font avec lui, de même quand nous faisons, Hachem fait avec nous. C'est-à-dire que même quand nous servons Hachem, Hachem se sert déjà lui-même, il est déjà partie prenante puisque le feu, il vient de lui aussi. Mais le jour de l'inauguration, Hachem voulait qu'on voie que le feu vient du ciel. Une fois, il faut l'avoir vu. Après, on n'a plus besoin de le voir, mais dans le subconscient des gens, ils savent le feu, il vient du ciel. Et Nadav et Avihu, ils pensent, on n'a plus besoin, on a compris que que le feu vient du ciel. On n'a pas besoin que le ciel, que le feu vienne du ciel, pour les encensoirs, on va nous les allumer, on va amener ce feu, dans l'encensoir il y a du feu évidemment, pour faire brûler, pour les parfums, mais nous on va l'allumer à l'extérieur et on va amener l'encensoir comme on va le faire par la suite, mais même le jour de l'inauguration, ils voulaient aussi apporter, ils voulaient, ils l'ont fait, ils vont apporter l'encensoir comme en vitesse de croisière. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'on est déjà dans la vitesse de croisière. Le Mishkan, c'est déjà la vitesse de croisière. On est sorti d'Égypte, Kabbalat HaTorah, les erreurs du veau d'or, mais on a réparé, Hachem nous a pardonné. La preuve, c'est qu'on a un Mishkan. Voilà, maintenant, ça y est. On n'a plus besoin de la vitesse de croisière. Et donc, on va amener le feu comme même le jour de l'inauguration. Bien sûr, il savait très bien que le feu venait aussi du ciel. On n'a pas besoin de le montrer, on a compris, on sait. On est adulte. On n'a pas besoin de la démonstration, on a compris. Et donc, ils ont amené ce feu qui n'avait pas été prescrit. Et Hachem, ce jour-là, il voulait que tout le monde voie que c'est lui qui envoie le feu. Donc, ils ont amené leur feu, et Hachem a amené le feu, mais le feu, il est venu, il a tout dévoré, eux y compris. Donc, la faute qu'ils ont faite, c'est une faute qui vient de leur grandeur, en fait. Parce qu'ils étaient vraiment à la hauteur, eux. Eux, ils auraient pu diriger le clan Israël. Mais le clan Israël n'était pas prêt. Donc, leur erreur, c'est d'avoir pensé qu'ils pouvaient diriger. Mais pour diriger, il faut savoir, pour être prêt à diriger, il faut savoir que ceux qu'on veut diriger sont dirigeables. Et les Bnei Israël n'étaient pas dirigeables tels qu'eux voulaient les diriger. Ils avaient besoin, les Bnei Israël avaient encore besoin de Moshe et d'Aaron, enfin ils ont besoin encore, ils sont encore en phase de démarrage, pas encore en vitesse de croisière. Pardon?
Ils ont joué sur le match, il a joué seul.
Non, mais
Il n'a pas fait
si
ses
on
efforts.
avait été si on avait vraiment déjà été en phase de vitesse de croisière, ils pouvaient jouer comme ça. En fait, il y a déjà un petit détail, c'est que il y a un passage qui dit Inematov umanaim shevet achim gam yafat. Comme c'est beau, comme c'est agréable quand deux frères peuvent vraiment être assis ensemble, travaillent vraiment ensemble, et on dit qui c'est? C'est mon cher Aaron. C'est les deux seuls frères qui travaillent sans se bouffer le nez. Et eux, ces deux frères. Et on dit qu'ils disaient quand est-ce que pour que nous, mais en vérité, dit le Midrash, chacun pensait quand est-ce que moi je dirige. Chacun pensait moi je vais diriger, pas toi, moi. Mais personne, mais il le disait pas à l'autre. On, nous, mais en fait chacun pensait moi.
Je pense qu'il n'y a rien dans tous les textes qui permet de penser ça. Dans tout ce que les textes que les messieurs disaient, enfin, nous
On sait quoi? Que Nadav et Abihu voulaient jouer chacun sa partie?
pensons que non, Moshe Aaron, c'est l'exemple des deux frères qui
Oui, ben parce que... Oui.
savez que les drachs critiquaient ça, disaient que ce n'était pas vrai. Donc,
Non,
c'est
pas du
pas
tout,
vrai.
c'est vrai, c'est les seuls.
Vous les seuls, voilà. Donc, et on dit cependant qu'ils étaient grands. Alors, c'est devant eux.
Non, mais eux, ils étaient très grands, mais ils n'ont pas pensé que... Le peuple était encore trop petit pour être dirigé par eux.
Ils étaient très grands dans leur. C'est celui qui a des
Ils
raisonnements.
avaient atterri, ils avaient atteint. Si Moshe dit qu'il était plus proche d'Hachem, même comme nous, c'est vrai. Moshe ne va pas raconter à Aaron des salades pour le consoler.
Est-ce que c'est leur raisonnement, si je me transposais avec les mots?
Non, mais Nadav et Abihu sont des très grands personnages. Ils se sont trompés. Ils ont, je dirais, si vous voulez, c'est une faute que le clan d'Israël n'a pas arrêté de faire, c'est la prématurité. C'est ce qu'ils étaient capables de faire, mais ce n'était pas encore le moment. C'était prématuré. Ce qu'ils ont fait, c'est prématuré. Ils auraient dû attendre encore. Ce n'était pas le moment. Ce n'était pas encore le moment.
Les parents ne s'étaient pas aperçus de cette date qu'ils avaient.
Non, mais il s'était peut-être pas aperçu qu'ils étaient aussi grands. Moshe Rabbeinu dit, je ne le savais pas avant. Mais c'est maintenant, puisque c'est eux qui sont morts et qu'Hachem m'avait dit, Bikrovaï et Kadesh, c'est-à-dire, je serai sanctifié par ceux qui me sont le plus proche, ça veut dire que Nadav et Abihu étaient plus proches d'Hachem que Moshe Aaron.
Mais ils avaient quelque chose qui gauche
Non, on voyait pas, personne ne pouvait le voir, et on voyait même pas que ils en étaient là, et ils marchaient derrière, ils se sont jamais révoltés ouvertement contre Moshe Aaron.
autant c'est une révolte de pas faire ce qu'Hachem m'avait demandé, c'est une révolte.
Bien
Là, je
sûr, mais
pense
parce
que.
qu'ils pensaient, si vous voulez, il y a des moments où on peut penser que je peux faire mieux que ceci. La Torah, elle me dit de faire ça, mais ça, c'est pour le commun des mortels. Mais moi, je peux faire mieux.
Dangereux.
Mais bien sûr que c'est dangereux.
Ça faisait aussi ça.
Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne le dit pas.
Oui, mais
Cette
c'est
idée, il y a dans le clan d'Israël deux tendances. Il y a une tendance qui pense comme ça, qui pense qu'il y a des gens qui sont au-dessus de la halakha. Dans la Chassidoute, le tzaddik, il est au-dessus de la halakha. Il peut faire des choses, lui, il peut. C'est une démarche qui dit que le travail de la Torah, c'est surtout pour développer des très grandes personnes. Et alors voilà, on a le tzaddik en question, c'est une très grande personne.
que le travail, l'homme qui s'est travaillé, qui a atteint ce niveau, est presque est dans la même peau que Hachem. Puisqu'il n'a pas besoin, il peut dépasser la Torah.
Non, mais il n'est pas au niveau d'Hachem, mais il pense que il est à un niveau où il peut être en prise directe avec Hachem sans avoir besoin d'un Moshe ou d'Aaron. Et lui non plus, ils ne vont pas jouer le rôle de Moshe et d'Aaron. Ils vont pas jouer le rôle d'intermédiaire. Ils vont jouer le rôle des chefs, mais pas intermédiaire.
C'est-à-dire ceux qui vont recueillir comme information, qui vont en lien avec la chaîne, c'est pour eux
Ça, c'est.
agir,
Oui, mais
pour guider, pour agir.
Ils vont agir. C'est le clan d'Israël qui. Ils sont simplement les directeurs, mais pas du tout les intermédiaires. Voilà, on va s'arrêter là.